Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous retrouver à bord de notre cargo Radio Caroline, amarré aujourd'hui à un quai du canal de Bruxelles et d'où nous allons descendre pour rejoindre AXL, un studio d'enregistrement devenu quasi mythique par où sont passées tant de stars anglo-saxonnes et françaises, l'ICP ou ICP si vous préférez. Une passionnante épopée dans l'histoire d'un petit studio devenu très vite très grand, gorgé de sons et d'archives. On s'y retrouve à l'ICP après un petit coup de sirène. Histoire de ne pas paraître impartial parce que cocardier, un peu chauvin, pas mon genre, écoutons ce que disait de ce studio en 2006 l'une des grandes plumes du journal Le Monde. Alain Bachung parle des studios d'enregistrement ICP comme de sa résidence secondaire. À en juger par le nombre de disques d'or et de platines d'artistes français, Indochine, Louise Attaque, Jean-Jacques Goldman, Alain Souchon, Renaud, Noir Désir, Manon Negra, Calogero, qui encombrent les murs de briques de cette institution bruxelloise, il n'est pas le seul à l'avoir adopté. Niché dans le quartier d'Ixelles, dans le sud de la ville, ICP ne laisse pas deviner de l'extérieur ses 4 studios d'enregistrement, ses 20 appartements destinés aux artistes, son vaste entrepôt, 100 guitares, 80 amplis, 500 pédales d'effet, ou encore sa piscine, au fond de laquelle est dessinée une guitare. Si les tarifs, environ un tiers moins chers que ses équivalents parisiens, attirent les Français, 50% de la clientèle, ICP possède d'autres atouts. Bachung, qui, avec les groupes Tissimatic et les Stranglers, a lancé la réputation du lieu au début des années 80, le résume ainsi, ambiance et compétence. Pour Romain Hureau, poursuit le journaliste du Monde, qui a enregistré un album de son groupe Eiffel, ici, les petits groupes sont autant considérés que les stars. John Astry, propriétaire fondateur américain d'ICP depuis 1979, a défini ses priorités. Miser sur la qualité des prises de son live, fournir aussi bien des instruments millémisés que l'avant-garde de la technologie, s'appuyer depuis 25 ans sur 4 ingénieurs du son, Phil Delire, Erwin Autric, Christian Jumramon et Michel Dirks, devenus aussi mythiques que le studio. L'ambiance, enfin, tout en décontraction, précise Astry, ICP a ainsi résisté au succès des studios d'enregistrement domestiques qui permettent aujourd'hui à beaucoup d'enregistrer à la maison. « Je ne crois pas au home studio », affirme le patron d'ICP. « Il faut des années pour devenir un bon ingénieur du son. Il est très difficile de cumuler à la fois les rôles de musicien, arrangeur et réalisateur artistique. » À bon entendeur, salut. C'était donc trouvé dans Le Monde en 2006. On ne pourrait mieux dire, en tout cas en introduction de notre balade au cœur de ce studio où l'on se glisse. C'est en 1979 donc qu'un Américain nommé John Astry, né aux États-Unis mais à l'époque résident belge depuis quelques années, ouvre un petit studio d'enregistrement nommé ICP au 41 de la rue Émile Debécot à Ixelles, entre la place Flaget et l'ULB pour vous situer. ICP comme Interchemical and Plastics, une appellation qui n'a rien à voir donc avec la musique. Et pour cause, Interchemicals and Plastics, à l'origine, c'est le nom que porte la société du père de John Astry, qui était au départ située ailleurs, à Ixelles, et dont les machines furent dédiées à l'emballage sous feuilles plastiques des disques vinyles. Parmi ses clients, Philips, Polygram, Deutsche Grammophon et plusieurs filiales d'EMI. Pour l'anecdote, en 1975, cette même firme ICP, Interchemicals and Plastics, collabora avec Hypnosis, société anglaise spécialisée dans la réalisation de pochettes d'albums, pour créer un film rétractable opaque bleu foncé destiné à l'album Wish You Were Here de Pink Floyd. Et c'est l'année suivante, en 1976, qu'ICP déménagera pour s'installer rue de Becot dans l'ancien entrepôt abandonné du Bon Pain bruxellois, où les activités industrielles de ICP se poursuivront, s'adaptant ces dernières années au marché du CD et de ses boîtiers, jusqu'à la fermeture de l'usine en 1995. Mais entre-temps donc, en 1979, le fiston John a ouvert un premier studio d'enregistrement 24 pistes situé à l'étage d'un des locaux détenus par le Daron. au fil des décennies, grandira un complexe qui comptera 3 autres studios, dont 4 au total, lesquels ne cesseront de s'adapter aux dernières technologies, mais aussi aux nouvelles façons de travailler des musiciens, en remodelant les espaces notamment. De même, on l'a dit, les artistes pourront disposer gratuitement de très nombreux instruments de musique. Personne ne doit être bloqué dans sa créativité ou son inventivité à cause d'un manque de moyens, dira John Astry. Qu'il s'agisse d'une star planétaire ou d'un débutant, je n'ai jamais fait aucune différence. Qui plus est, l'ICP deviendra résidentiel en 1987 avec l'acquisition de maisons adjacentes et l'aménagement d'appartements pour les artistes étrangers, puis d'une usine quelques années plus tard, offrant à l'ensemble de nouveaux espaces communs, un salon décoré des disques d'or, de platine et de diamants engrangés par les enregistrements réalisés à l'ICP, plus de 300, une piscine intérieure, on l'a dit, une salle de sport, un jardin privé et un parking sécurisé. Et c'est dans ce désormais vaste ensemble que l'émission Intérieure Nuit retrouvait John Astry en 1995.
En une quinzaine d'années, l'ICP a investi 100 millions dans l'aménagement des studios et l'achat de matériel. L'une des dernières acquisitions, la table de mixage qui a enregistré Dark Side of the Moon.
À un moment donné, on vendait le studio rien que sur la base du matériel. Donc tout le monde achetait pour dire « moi j'ai ça ». Et c'est ce que le firme de disque ou le producteur voulait à ce moment-là. Combien de canaux tu as? Est-ce que tu as un SSL? Tu as ceci? Il faut ça? Tout se faisait là-dessus. On parlait pas tellement de petite quelque chose en plus, des ambiances, le savoir-faire des ingénieurs, toutes sortes de choses. Ah, ça a tout à fait changé. Pour nous, on pose plus la question qu'est-ce que tu as comme console ou qu'est-ce que tu fais comme si. C'est-à-dire, à un moment donné, tu as une certaine réputation. Les gens entendent le disque et ils viennent. Et je dirais faire un album peut varier de 800 000 francs à 3 000. Ça dépend des exigences ou de l'approche. Tu peux dire, voilà, nous on a répété, on joue live. 4 musiciens, ils rentrent, ils jouent en direct. En quelques jours, ils ont fait l'album. Encore quelques jours pour le mixer, ça va très vite. Les musiciens, ils veulent plus aller à l'hôtel, se trouver à 10 km du studio, partir au milieu de la nuit, arriver dans les embouteillages le matin. Ici, ils n'ont rien de tout ça. Ils s'installent, ils prennent leur petit déjeuner, ils peuvent commencer tout de suite. Donc, je veux une anecdote, c'est ça. Bah, je crois qu'on avait un roadie d'un groupe anglais, extrêmement musclé et tatoué. Il avait toujours du linge dans son lit. Et un beau jour, on le voit passer, un soir, en linge de femme, 2 pièces. Et on lui demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es habillé comme ça? Il dit, ben, après 21h, je m'appelle Julie.
Si John Astry a fait de l'ICP un studio à part et très vite hors norme pour Bruxelles et même sur le continent, sur le vieux continent disons, Grande-Bretagne exclue, c'est fort de ses connaissances américaines en la matière, très différentes du contexte belge. À la fin des années 70 à Bruxelles, John Astry, musicien d'origine américano-irlandaise et doté d'un esprit entrepreneur, se désole qu'il n'existe pas de studio belge plus précisément spécialisé dans la pop et le rock, comme il le confiera à la journaliste belge Aurélia De Jong. C'était l'époque de Johnny Echela et moi j'avais plutôt une culture rock venue d'Angleterre et des États-Unis où les groupes enregistraient des disques en expérimentant en studio. Alors qu'ici, en Belgique ou en France, les choses avaient longtemps fonctionné autrement. Des éditeurs musicaux à qui des auteurs-compositeurs confiaient leurs chansons se mettaient en quête d'un artiste pour les interpréter, puis passaient en studio pour mettre en boîte le morceau tel qu'il avait été conçu. Et moi, j'avais envie d'innover, de faire ici ce qui se faisait par exemple à Abbey Road à Londres, ma référence absolue. Dixit, donc John Astry. Cela dit, les premiers clients du studio ICP seront belges et pas vraiment le genre à enregistrer à Abbey Road avec George Martin. Il s'appelle Mick and Rule, un duo flamand qui verse depuis une quinzaine d'années dans une sorte de country local. Donc voici, je l'ai retrouvé, l'extrait d'un des titres de l'album, le premier donc, qui fut enregistré à l'ICP. John Astry avouera plus tard que son studio n'était pas encore tout à fait au point pour ses sessions, ce que d'ailleurs le duo lui signifiera gentiment. Mais en revanche, il sera fin prêt pour accueillir peu après, en 1980, un autre groupe belge flamand dans le vent, The Kids, qui mettront en boîte l'un de leurs succès, There Will Be No Next Time. À la même époque, Je Le Maire plus Flouze vient à l'ICP enregistrer son album Pygmy World, qui comprendra un tube au son très dans le mood de ses 80s commençantes, Je suis venu te dire que je m'en vais. La réputation du studio ICP bruissant désormais parmi les labels et artistes belges, c'est près d'une quarantaine de titres qui, dès la deuxième année d'existence du studio, y seront enregistrés, dont l'album « Un coup de rouge, un coup de blues » de Pierre Rapsat. Le groupe Tissimatic d'Arnaud y gravera aussi ses quatre albums, dont « La Pache », que le chanteur leader viendra présenter en janvier 1983 dans l'émission de télévision de la RTBF « Génération 80 » présentée par Fabienne Van de Merch. Arnaud confirmant le lieu de l'enregistrement de son disque et même le chemin pour y arriver.
Voilà, Arnaud de Tissimatic, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais Tissimatic est en direct sur ce plateau de Génération 80. La caméra avec le machin rouge qui est allumé, tu vois. Alors maintenant, on pourrait peut-être aller de ce côté-là, si tu veux bien. Voilà, alors Tissimatic, non, pas beaucoup de kilomètres. Tissimatic, groupe belge, évidemment, que vous connaissez bien, ils ont fait un hit énorme avec Oh là là là, et puis un album qui a presque frôlé le disque d'or. Non, il n'a pas presque frôlé, il a frôlé le disque d'or. Et maintenant, il y a un nouveau 45 tours qui s'appelle le Java, Arnaud, et qui est extrait d'un album.
Oui, oui, c'est l'extrait d'un album.
Et c'est un album qui s'intitule
La Pache.
Et c'est un album qui a été enregistré ici en Belgique ou bien à l'étranger?
Ici en Bruxelles.
À Bruxelles.
Pas loin d'ici, jusqu'à côté. On prend le tram. Tram 92, ou non, au 69.
90.
69.
À l'ICP, c'est ça?
ICP, oui.
Voilà.
Oui, ICP à l'anglaise. Et c'était bien le tram 90 qu'il fallait prendre à l'époque, devenu ligne 7. Arnaud, en solo, restera fidèle à l'ICP jusqu'à son dernier disque, Vivre, en 2021, en duo avec Sofiane Pamart.
Je veux vivre dans un monde...
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Les artistes français ne tarderont pas, eux aussi, à débarquer rue Émile de Bécaud à Ixelles, à commencer par Bachung. En 1984, il vient enregistrer à l'ICP SOS à mort, single grâce auquel il retrouve le succès après un passage à vide de deux albums. Un bon coup de pub pour le studio bruxellois et le début d'une réelle fidélité, on l'a déjà compris, pour Bachung. Car c'est là qu'il gravera, parmi bien d'autres, l'album Osez Joséphine, très gros succès, serti de tubes massifs.
Osez Joséphine.
J'aurais très bien pu faire un album en français complètement, et un album avec des reprises également. Et en fait, ça s'est terminé par un mix des deux. Et je voulais reparler aussi du plaisir, je voulais... Et ces chansons, par exemple, Nights in White Satin, c'est bien un texte un peu délirant, mais en fait, c'était un peu pour montrer mon aspect sentimental, parce que j'ai raconté beaucoup de choses comme ça, des petites visions sociales, des rapports entre les gens qui sont pas toujours formidables, qui sont parfois assez négatifs. Mais je me suis dit, je peux pas comme ça tout le temps en rajouter du noir. En plus, je peux. C'est presque devenu facile pour moi. Moi, je préfère de temps en temps voir un petit défaut comme ça qu'une superbe qualité qui cache tellement d'autres choses problématiques. Donc, oser, c'est peut-être ça aussi. Et puis, c'est le moment, peut-être, je ne sais pas. Moi, je sais que quand je peux avoir des contacts assez directs avec les gens ou quand je peux être simplement moi-même, je me sens beaucoup plus fort. Ben, je me suis toujours démerdé, je crois, pour ne pas tout avoir. Parce que j'ai pu sentir à un moment donné que on pouvait être comme ça, une espèce de sommet. Et à ce sommet, j'ai vu un néant pas possible. Il y avait comme un poteau que j'avais gravi, admettons. Et en haut du poteau, il y a marqué « fin du poteau ». Basta.
Bruxelles est une plateforme à la croisée de la francophonie et de la culture anglo-saxonne, dira Bachung. J'ai toujours aimé travailler avec des musiciens belges. Ils ont assimilé toutes ces cultures et peuvent être à la fois rigoureux et fous, exigeants et humbles. Et parmi eux, le guitariste Nicolas Fiesman qui confiera « Quand j'ai eu le privilège d'enregistrer avec Alain Bachung, j'ai compris avec lui ce qu'était le métier de musicien de studio. J'ai mis mes automatismes et mon ego au placard pour me mettre totalement au service d'une chanson. » En 2002, c'est l'imprudence qui sera élaborée au studio ICP, réalisé par Jean Lamothe, qui se souvient de la conception de ce disque à Bruxelles, je le cite. « Avant d'enregistrer, Alain proposait des maquettes sur lesquelles il chantait avec juste une guitare qui donnait le rythme. Après, nous retirions la guitare, il ne restait que la voix et le rythme, plus d'harmonie. On proposait les morceaux à trois arrangeurs différents, libres de choisir les harmonies qui vont teinter la voix et donc entrer dans des univers différents. On se retrouvait donc avec trois arrangements différents et on avait le choix, mais on pouvait aussi en mélanger plusieurs, c'est ce qu'Alain recherchait. Après, lors de la prise de voix définitive, Alain devait donc recaler sa voix exactement telle que nous avions reconstruit la chanson. Le résultat avait souvent quelque chose de très dense, très symphonique. On était au studio ICP, à Bruxelles, une Rolls, en résidentiel, et donc on avait un confort de travail incroyable. On travaillait un peu quand on voulait, d'autant que je suis aussi ingénieur du son, dit encore Jean Lamothe, donc je ne dépends de personne. Et Alain était finalement peu présent, il laissait beaucoup de liberté. « Démerdez-vous », nous lançait-il. On travaillait tout l'après-midi sur un arrangement et le soir, au dîner, il pouvait lâcher « la caisse claire, je suis pas sûr », si on partait plutôt sur le piano. C'est une époque où l'on avait de gros moyens pour ses albums, dit encore le réalisateur. 3 mois de studio. On avait tout préparé en amont, pendant des mois en numérique et en studio. Il fallait remplacer l'essentiel par de vrais instruments, en testant des musiciens. On avait le temps d'expérimenter aussi. Il m'est arrivé de plonger les micros dans une bassine d'eau et de capter le son des instruments en ajustant le niveau d'eau sur la tonalité ou d'enregistrer un son de punching ball qui se trouvait dans la salle de sport du studio. Excite donc Jean Lamothe et cette histoire de punching ball. Évidemment, Jonas Tree n'y avait sans doute pas pensé lorsqu'il avait conçu cette salle pour que les artistes puissent se détendre dans l'énergie. La dernière fois qu'Alain Bachung entra l'ICP, ce sera en 2007 pour certaines sessions de son ultime album Bleu Pétrole.
Qu'il chante la terre.
Entre-temps, et par la suite, bien d'autres artistes français ont pris ou prendront leur quartier à l'ICP. Stéphane Escher, Alain Souchon, Jean-Louis Aubert, Alain Chamfort, Mio Sec, Françoise Hardy, Benjamin Biolay, Vanessa Paradis, Indochine, Renaud ou encore le rappeur Damso. Mais aussi des anglo-saxons. On le disait, de nombreux artistes ou groupes anglo-saxons passeront également la porte dans des studios du complexe ICP. Et non des moindres, The Stranglers, Gorillaz, Orchestral Manoeuvre in the Dark, Echo and the Bunnymen, on l'a entendu, John Cale, Simple Minds, mais aussi The Cure, qui mixe en 1987 son album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Justement, téléportons-nous en 87 dans la cabine d'un des studios dont dispose l'ICP pour y retrouver le leader de Cure, Robert Smith, lequel nous explique qu'il est déjà venu à Bruxelles, mais jamais autant de temps, que la ville ne lui semble pas fondamentalement différente d'autres endroits en Europe et que de toute façon, il ne sort pas beaucoup du studio où sera mixé le soir même le dernier titre du nouvel album du groupe.
I've been to Brussels a few times before with the group, but usually when we're going to play. So I've never actually been in it for as long a period as this. I don't know, it's just the same as any other European town, I find.
So far are you into the mix of the next LP?
We're on the very last song tonight. We'll finish it tonight. The album's going to be called Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. And the first single will probably be Why Can't I Be You or Catch. I haven't decided yet, I don't know.
Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, un double album finalement, partiellement mixé à Nassau, aux Bahamas et donc à l'ICP de Bruxelles, raison de la présence de Robert Smith dans la capitale belge en ce mois de janvier 1987. Mais un album dont les 18 titres, ceci dit pour l'information, avaient été précédemment enregistrés dans un autre studio résidentiel, le studio Miraval, situé dans le sud de la France et dont je vous parlerai un de ces jours. Un album qui décrochera un disque de platine aux États-Unis, tiré par le titre Just Like Heaven. Pour terminer, j'avais envie de vous livrer trois derniers témoignages au sujet du studio ICP, recueilli par Aurélia De Jong il y a quelques années. À commencer par Renaud, qui s'en souvenait en ces termes. C'est pour mettre en chanson une BD du dessinateur belge Walteri que j'y suis venu la première fois dans les années 90. C'était un CD-BD, j'ai interprété un titre, le projet était très original. J'étais séduit par le studio et j'ai eu envie d'y retourner pour y faire des albums complets en raison des compétences exceptionnelles des ingénieurs du son et des musiciens tout d'abord. Ils sont d'une efficacité redoutable, c'est très impressionnant. Quant à John Astry, il est terriblement paternel. En plus, les appartements sont magnifiques et la cuisinière a un talent fou, déclarait donc Renaud il y a quelques années.
Je continue de chanter.
Quant à Benjamin Biolay, toujours habitué des lieux, il raconte « J'ai découvert le studio ICP via le groupe qui m'a aidé à me lancer dans la musique, l'affaire Louise Trio, sur l'album L'Homme aux mille vies en 1995, mais je le connaissais évidemment de nom en lisant les crédits des disques. Ma longue fidélité à ICP s'explique parce que ce sont de grands professionnels et de vrais amis. Le studio reste toujours à la pointe de la technologie, malgré cet amour du vintage. C'est l'atelier idéal entre la maison et le laboratoire. J'y suis toujours très heureux. » Quant à John Astry, créateur et patron de ce studio dont nous venons de raconter l'histoire, s'il regrette de n'avoir pu y accueillir Gainsbourg, il a en tout cas réalisé l'un de ses rêves de jeunesse. Il raconte « Quand j'étais élève en secondaire, je jouais du Cat Stevens, dont j'étais fan, dans les bals de l'école avec mon groupe. Et un beau jour de 2013, j'ai reçu un coup de fil d'un intermédiaire me précisant que Cat Stevens souhaitait venir enregistrer à l'ICP. » Pendant un moment, je n'y ai pas cru, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une blague. Pas du tout, on a fait deux de ces albums en nos studios. Notre voyage à travers l'histoire du studio, des studios ICP, se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, apprécié, n'hésitez pas à le partager et à l'étoiler. Belle journée ou bonne nuit. Radio Caroline.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.